Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, c'est la Libre Antenne, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. On parlera évidemment des concertations nationales en ce moment même pour organiser la transition au Mali. On reviendra sur la campagne électorale et surtout sur les candidatures en Guinée qui font polémique. Celle d'Alpha Condé qui brigue un troisième mandat et la polémique autour de la décision du principal opposant, c'est Loud Alain Diallo, de ne pas boycotter ce scrutin. On a des réactions également sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Quelques supporters du Barça nous appellent. Et oui, Lionel Messi a finalement décidé de rester à la maison, au Barça. Donc on vous donnera la parole. On va essayer de prendre sur l'antenne de RFI le plus grand nombre d'auditeurs. Mais d'abord, pour commencer, des témoignages sur les importantes inondations qui frappent en ce moment l'Afrique de l'Ouest et une partie de l'Afrique centrale. Les dégâts sont considérables. Le bilan humain est très lourd. Près d'un million de personnes sont touchées par ces inondations et la saison des pluies n'est pas encore terminé. Bonjour Taïrou.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs et à l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Merci de nous appeler de Niamey. Le Niger, votre pays, est particulièrement touché. Je lisais pendant le journal de Xavier Besson les dernières estimations, en tout cas les derniers chiffres de sources officielles dans votre pays. 71 morts, 300 000 sinistrés. Taïrou, vous-même, personnellement, avez-vous les pieds dans l'eau en ce moment ?
Heureusement pour moi, non, je n'ai pas les pieds dans l'eau, mais j'ai quand même des membres de la famille, des amis, des connaissances qui ont, on va dire, même la tête sous l'eau.
Oui, parce que vous êtes dans une zone qui n'est pas inondable. Le gros problème de Niamey, pour ceux qui ne connaissent pas la capitale du Niger, c'est que la majorité, la très grande partie des habitants de la capitale vit sur les rives du fleuve Niger. Et quand il pleut énormément, le fleuve déborde. Il dépasse la cote d'alerte et inonde donc toute cette partie de la ville.
Oui, pour moi qui suis né et j'ai grandi à Niamey, j'ai bien vu, en tout cas pour ceux qui sont de ma génération le savent, à l'époque on connaissait les limites du fleuve. Donc vous avez énormément d'habitations qui se sont construites sur les rives du fleuve, donc on va dire sur le lit du fleuve, et aussi on a profité pour construire des routes sur le lit du fleuve, une fois qu'il s'était retiré tout doucement, il y a eu d'énormes travaux qui ont été faits. Mais aujourd'hui, la nature reprend tout simplement ses droits, dans certains cas, évidemment.
Oui. Quand la population exprime sa colère et pointe du doigt les autorités, qu'elles ne font pas assez, qu'elles n'anticipent pas la saison des pluies, on sait tous, malgré le réchauffement climatique, que la saison des pluies commence tel mois et se termine tel mois. Il n'y a pas d'anticipation.
Juan, moi je ne vais pas dédouaner les autorités, mais aussi les populations, une part de responsabilité dans cette affaire-là. Puisque des alertes ont été lancées principalement pour cette année, qu'il va y avoir d'énormes précipitations et que les gens, certains, ont été priés de déguerpir ou en tout cas de prendre les dispositions si jamais des inondations venaient à arriver. Mais aussi, je ne vais pas dédouaner l'État dans le sens où vous avez l'État qui a permis, qui a fermé les yeux pour que les gens construisent sur des zones qu'on sait inondables depuis toujours. Là-dessus, on ne peut pas dédouaner les autorités. Ou quand vous construisez des routes qui n'est pas prévu des canalisations ou des égouts pour évacuer les eaux, on arrive à ces situations-là.
Ouais. Alors vous êtes à Niamey, Taïrou, on a reçu le commentaire d'Aruna qui est à Abalak, au centre du Niger. Il tenait absolument à prendre la parole dans cette émission. On essaie de le rappeler, malheureusement le réseau ne passe pas. Et Abalak a les pieds dans l'eau, il dit on parle beaucoup de Niamey. Aruna a les pieds dans l'eau, et il nous dit on parle beaucoup de Niamey, de la capitale, mais ici on est encore plus abandonné par l'État. Ce sont les populations qui s'organisent entre elles pour se sauver et en finir avec l'eau, évidemment, qui inonde les maisons. Et on fait avec les moyens du bord, disait-il sur son commentaire posté sur Facebook. Donc une pensée, évidemment, pour Aruna à Abalak. Jonas, bonjour.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Ziguinchor. On a pris en début de semaine des auditeurs du Sénégal, concernés évidemment par ces inondations, des auditeurs essentiellement de Dakar, la capitale. Mais là aussi, il n'y a pas que Dakar concerné par ces inondations. Vous-même à Ziguinchor, vous avez les pieds dans l'eau.
Oui, oui, oui. Ziguinchor est concerné par ces inondations. Il y a le quartier de Boudodi, par exemple, de Goumel, entre autres, qui sont dans l'eau. Donc la situation, elle est générale.
Et donc, alors...
Et donc, je pense que c'est toujours de la responsabilité de l'État, il faut le dire, parce qu'on ne peut pas construire des cités sans canalisation. On ne peut pas non plus construire des routes sans caniveau.
Oui.
Parce que depuis quelque temps, prenons le cas de Ziguinchor, on avait vu l'ONANSE, qui est l'Office national chargé, de l'assainissement, qui était là pour des projets qui n'ont pas abouti, on les voit même plus.
Donc, mais j'entends bien les critiques, hein. Il faut trouver un responsable, donc premier responsable, la collectivité, le maire, deuxième responsable, eh bien un peu plus haut, le gouvernement, puis troisième responsable et dernier, Macky Sall, le président de la République. D'ailleurs, c'est vrai que les Sénégalais ont exprimé leur colère ces derniers jours. On leur dit depuis 10 ans que l'État a dépensé près d'un milliard d'euros, l'équivalent d'un milliard d'euros dans la lutte contre les inondations. Il pleut, certes, beaucoup, mais le pays se retrouve aujourd'hui quasiment inondé. Jonas, vous dites, il n'y a pas de caniveau. Le problème, c'est que quand il y a des caniveaux, et vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, les gens les utilisent comme une poubelle.
Oui, les gens les utilisent comme des poubelles. Mais écoutez, quand on a une ville où on ne voit qu'une seule fois la benne à ordures, par semaine, il y a problème. Dans certaines zones, par exemple, de Ziguinchor, le véhicule de ramassage, de collecte, je veux dire, des ordures, ne peut pas accéder. Prenez, parce qu'il n'y a pas de route, de bonne route. Ou bien il y a un problème de carburant. Vous voyez, il y a un problème de planification dans nos communes, que ce soit au niveau de l'État central aujourd'hui, qui se charge de la collecte des ordures un peu partout dans le pays. Donc le problème, on ne peut trouver quelqu'un d'autre comme... j'allais dire responsable que l'État.
Bon.
Donc il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont.
Bah voilà, vous l'avez dit. Jonas, merci infiniment. Bon courage à vous à Ziguinchor. On garde le contact. On continuera dans les prochains jours à vous donner la parole en fonction de l'évolution de la situation. Mais prenez soin de vous. Faites attention. Soyez prudents. Hein. Il continue à pleuvoir en Afrique de l'Ouest et sur une grande partie de l'Afrique centrale. Je vous le disais en préambule, la Guinée suscite énormément de réactions au standard. Tant que la plupart des opposants ont décidé de boycotter la présidentielle du 18 octobre. Ce n'est pas une surprise, hein. C'est vrai que ces derniers mois, ils menaçaient de ne pas participer au scrutin si le président Alpha Condé briguait un troisième mandat. Il brigue un troisième mandat, c'est officiel. Mais voilà que Seloud Alain Diallo, le chef de file de l'opposition, finalement décide de se lancer dans la course. Moïse, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Conakry, Moïse, et comme beaucoup de sympathisants de l'opposition, eh bien la candidature de Seloud Alain Diallo passe mal.
Je rappelle que c'est Moïse Constant Coulier.
Très bien, ben, enchanté. On vous écoute.
Voilà. J'aimerais dire par là que Seloud Alain Diallo ne devrait pas participer à cette élection du 18 octobre, parce que tous les Guinéens savent aujourd'hui que c'est une élection... est déjà organisé en faveur du pouvoir en place. Et par conséquent, tous les opposants devraient boycotter cette élection et continuer les manifestations, car c'est la seule chose qui peut faire partir, n'est-ce pas, le pouvoir en place.
Ouais. Donc pour vous, la politique de la chaise vide serait aujourd'hui la meilleure des stratégies.
Justement.
Ouais.
Il fallait boycotter, n'est-ce pas, les élections et, n'est-ce pas, continuer à se manifester. Et pour faire partie, n'est-ce pas, le président de ce pouvoir.
Oui, mais enfin, je vous rappelle, excusez-moi Moïse, j'entends, vous êtes fatigué par Alpha Condé, élu en 2010, réélu en 2015, j'entends bien. Mais Moïse, l'opposition a boycotté les législatives du mois de mars, du coup, il n'y a plus un seul député de l'opposition à l'Assemblée nationale. L'opposition a boycotté le référendum constitutionnel également au mois de mars, du coup, ça a permis au pouvoir de mettre sur pied une nouvelle constitution qui, pour les partisans d'Alpha Condé, l'autorise donc à briguer un troisième mandat. Quels sont les résultats du boycott jusqu'à présent?
Bon, les résultats du boycott, moi, je sais que, je pense bien que nous sommes à la dernière ligne droite. Ce sont les présidentielles qui sont en ligne de mire. Donc, tous les Guinéens sont prêts, n'est-ce pas, à se lever comme un seul homme, hein, pour lutter contre, n'est-ce pas, la candidature de M. Alpha Condé à ne pas briguer un troisième mandat.
Oui, mais là, il brigue. Là, il brigue un troisième mandat. S'il n'y a pas de candidat de l'opposition, c'est donc un boulevard pour le président sortant. Il sera forcément réélu.
Monsieur Selou Dalein Diallo devrait rester dans l'opposition, Monsieur Wan.
Oui.
Il est dans l'opposition, mais il devrait rester dans le FMDC et lutter toujours contre Monsieur Alpha Condé.
D'accord. Donc mais pour vous, le combat passe par le boycott. C'est une stratégie, je l'entends, on la respecte évidemment. Moïse, vous savez bien qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui prennent la parole, qui souhaitent s'exprimer. C'est le cas d'Amadou. Bonjour.
Bonjour, Wan.
Amadou, comment réagissez-vous à cette polémique? Elle est justifiée ou pas?
Moi je pense, considérant que d'abord le boycott ne produit aucun résultat concret, l'opposition, on avait déjà vu l'expérience, avait boycotté le double scrutin du 22 mars, et cela n'a pas empêché l'avènement de la nouvelle constitution qui aujourd'hui s'applique à tous les Guinéens. Et si toutefois M. Selou Dalein Diallo, qui est le principal opposant au pouvoir d'Alpha Condé, décide d'aller à la course et obtenir le pouvoir par les urnes, je pense que c'est un acte à saluer. Je pense que c'est la meilleure voie.
Oui.
On ne peut pas penser à obtenir le pouvoir par la violence, ça ne profite à personne, ou par les armes. Le pouvoir ne s'obtient que de façon démocratique.
Par les urnes, évidemment, Amadou. Et ce sera d'autant plus compliqué pour l'opposition de contester ensuite une éventuelle victoire d'Alpha Condé si cette même opposition ne participe pas au scrutin.
Moi, je pense qu'un parti politique est fait pour compétir à des élections. Donc, considérant cela, l'opposition a le choix. Moi, pour moi, le meilleur choix, c'est quoi? C'est d'aller aux élections. Aujourd'hui, le FNDC ne doit pas divorcer face au principal opposant.
Ah oui, mais le problème, c'est que vous avez le FNDC, c'est donc ce collectif Front National pour la défense de la Constitution qui, depuis des mois, appelle au boycott et tout d'un coup, à quelques semaines de la date, à quelques heures de la date limite du dépôt des candidatures, le principal opposant dit, bah non, finalement, j'y vais. C'est-à-dire qu'il y a quand même une contradiction entre ce que prône le parti Selou Dalein Diallo depuis des mois et le résultat final. Donc on peut comprendre que certains au sein de l'opposition ont l'impression d'être trahis. On aura l'occasion d'en reparler, c'est promis. Merci à tous les deux, Moïse et Amadou. Bonne journée et bonne fin de semaine à tous les deux. Et à tous ceux qui nous écoutent à Conakry et en Guinée, car vous êtes nombreux à parler et à souhaiter commenter l'actualité dans votre pays. Je voudrais qu'on s'intéresse au Mali. Ça fait 3 semaines que le coup d'État a eu lieu et les différentes parties sont en ce moment même réunies à Bamako. Toute la question est de savoir si elles vont s'entendre sur l'organisation de la transition. Le temps presse, hein. La CDAO a donné à la junte militaire jusqu'à mardi pour nommer un président et un premier ministre, tous les deux forcément des civils, hein. C'est ce que demande la CDAO. Ousmane, bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue, Ousmane. Comment vivez-vous ces concertations nationales?
Alors, avec beaucoup d'espoir, une certaine appréhension, parce que la situation politique au Mali est, comme vous le savez, extrêmement délicate, extrêmement difficile, et la CDAO ne nous aide pas en nous mettant la pression. Moi, je pense qu'il faut nous laisser le temps de nous réorganiser, parce que, Juan, le Mali est déliquescent. Allô?
Oui, je vous écoute.
Le Mali est dans une situation de déliquescence totale et il faut du temps pour revoir tout ça. Alors les concertations sont en cours.
Ousmane, quand vous dites il faut du temps, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas l'attitude de la CDAO qui vous fixe un ultimatum, enfin qui fixe un ultimatum militaire au pouvoir. Il faut trouver une solution d'ici à 4 jours.
Oui, c'est ça qui n'est pas bon. Il faut laisser le temps aux gens de se concerter et d'arriver à un consensus. Plus nous aurons un consensus, et mieux le Mali se portera. Et la pression de la CEDEAO vient fausser tout le débat, et parce que nous qui sommes au Mali, c'est nous qui connaissons la situation du Mali. Et c'est une situation extrêmement difficile, rendue encore plus difficile par les sanctions de la CEDEAO. Donc nous mettre la pression, c'est inutilement compliquer le problème, alors que nous avons à gérer la mise en place des éléments de la transition. Et il y a le problème du chef d'État qui se pose, même si cela a été en partie réglé par le CNSP, qui a décrété Assimi Goïta comme chef de l'État. On peut le regretter, mais il y a tout un travail à faire, la mise en place des organes, etc.
Effectivement.
Là, il faut nous laisser un peu de temps.
Alors, il faut nous laisser, c'est l'appel que vous lancez finalement au chef d'État ouest-africain, Ousmane, si je comprends bien. En deux mots, Ousmane, avez-vous un point de vue tranché sur la durée de la transition? Il faut quoi? 1 an? 18 mois? 3 ans, comme le disaient dans un premier temps les putschistes?
Moi, je crois que 3 ans, c'est trop quand même. Hein.
Oui.
Même si la situation malienne peut penser que 3 ans, ce ne sera pas trop, mais quelque chose comme 18 mois, ça devrait aller. 18 mois.
Allez, autre question, Ousmane, autre question directe et réponse rapide, question qui divise là aussi, la nature de la transition, civile ou militaire pour vous?
Les deux.
Ah, les deux, bon.
Oui.
Comme ça, il n'y a pas de mécontents alors?
Oui, c'est pas surtout parce qu'il n'y a pas de mécontents, parce que moi, je ne fais pas confiance à la société civile pour gérer tranquillement, parce que il y a tellement de rivalités qui se sont manifestées lors de départ de Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, que si l'on laissait au seul civil la direction de la transition, oui, alors on risque de se retrouver à la case de départ.
Donc une transition civile et militaire. Ousmane, merci infiniment. Désolé, hein, il y avait d'autres auditeurs prêts à passer à l'antenne pour s'exprimer sur le Mali, mais on vous rappelle, c'est promis, et vous savez quoi, on vous rappelle dès lundi, car on prolongera le débat lundi matin, on dressera un bilan ensemble des concertations nationales qui se tiennent jusqu'à demain. Allez, on va terminer en parlant football, un sujet un peu plus léger. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Supporter du Barça, c'est bien ça Antoine?
Absolument, et je suis le seul à la maison à supporter Barça.
Ah,
tous mes 4 enfants supportent Real.
Ah, Real, ah oui, effectivement. Donc, j'imagine les soirées à la maison chez Antoine. Antoine, en tout cas, vous souhaitiez réagir à la décision de Lionel Messi de finalement rester dans votre club chouchou, votre club préféré.
Oui. Moi, j'espérais qu'il parte parce que je trouve qu'on a fait une saison désastreuse et l'équipe doit pouvoir se refaire. Et c'était vraiment compliqué pour nous. Nous aimons tellement cette équipe et on a tellement enregistré de confitures. Et c'était peut-être la solution la meilleure pour lui de partir.
Ah oui, vous auriez souhaité qu'il quitte le Barça alors que ce club lui a tout donné?
Oui, je crois que moi je condamne particulièrement cette politique de construire l'équipe autour d'une personne. C'est ça le revers de la médaille, je crois qu'on subit, quoi.
Ouais. Mais en même temps, avec Ronaldo, c'est peut-être le premier ou le deuxième meilleur joueur au monde. Donc on construit effectivement une équipe autour d'un des meilleurs joueurs au monde.
Oui, il nous a donné tellement de plaisir, c'était bien, mais apparemment c'est le fin d'un cycle. Je ne sais pas comment ça va se passer, on est inquiet de voir comment il va continuer avec Barça, comment référer, il faut une révolution.
Ah, bon, en tout cas, son contrat court jusqu'à juin prochain, donc il est au moins là 1 an, on verra quelle est l'ambiance dans les vestiaires, en tout cas il a repris l'entraînement, c'est une bonne nouvelle pour les amoureux de Lionel Messi. Antoine, bonne saison foot, et écoutez d'ailleurs Radio Foot International, hein, aujourd'hui vendredi, ce sera le Café des Sports, Annie Gasnier, Rémi et les autres évidemment. Passez tous une excellente fin de semaine, merci de votre fidélité, lundi vous le savez, on parlera du Mali, on dressera ensemble un bilan des concertations nationales, on verra si les militaires au pouvoir et ce qu'on appelle les forces vives de la nation auront réussi à s'entendre, notamment sur la durée de la transition ou sur le caractère civil et militaire de cette période. Bonjour Raphaël Constant.